suite un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Bonsoir et bienvenue à votre émission L'Amérique et vous, Abdourahmane Dia à la présentation. C'est le tollé ici aux États-Unis depuis les révélations de la presse d'une déposition d'un lanceur d'alerte qui a indiqué que le président américain Donald Trump a tenté de faire pression sur son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky pour l'ouverture d'une enquête visant le fils de Joe Biden. Joe Biden, c'est l'ancien président des États-Unis, également candidat à la présidentielle de 2020 pour les démocrates. Mais Donald Trump a nié avoir tenté de faire pression sur l'Ukraine. Et depuis, on va de rebondissement en rebondissement. Les démocrates de la Chambre ont lancé une enquête en vue d'une procédure de destitution. Alors pour parler de tout cela, j'ai au téléphone Claude Porcella, ancien chef du service francophone de la Voix de l'Amérique. Claude, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane.
Merci d'être avec nous à nouveau. Et j'ai également ici en studio mon collègue Henri Francisque. Henri, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je démarre avec vous, Claude. Nancy Pelosi, qui est la chef des démocrates au niveau de la Chambre des représentants, a jusque-là résisté une frange de son parti qui a appelé depuis plusieurs mois à la destitution du président concernant l'affaire russe. Pourquoi cette fois-ci elle a cédé, si on peut le dire ainsi?
Bien, oui, vous avez raison, on a vu jusqu'à présent résister aux pressions de l'aile la plus progressiste de la Chambre pour initier cette procédure de destitution. Mais cette affaire ukrainienne, ce coup de fil, cette conversation le 26 juillet entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky a été d'une certaine façon la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et des démocrates estiment maintenant qu'ils ont trouvé l'arme du crime. Cela faisait déjà très longtemps qu'ils souhaitaient destituer le président, qu'ils souhaitaient se débarrasser, le chasser de la Maison Blanche avant la fin de son mandat. Et il l'avait accusé de tas de choses sur ses impôts qu'il avait refusé de déclarer jusqu'à présent, sur ses affaires personnelles, etc., etc. Et le public, ça n'accrochait pas avec le public. Et ça les laissait un peu indifférents. Oui, bon, ils ne voulaient pas aller jusqu'à la destitution parce que c'est évidemment une procédure qui provoque toujours une crise au sein d'un pays. Donc, mais cette fois, avec cette affaire ukrainienne qui est très, très embarrassante, qui semble avoir des effets extrêmement, extrêmement graves pour le président, Nancy Pelosi a dit d'autant plus qu'elle n'avait pas encore jusqu'à présent la majorité nécessaire pour initier cette procédure.
On a l'impression que maintenant elle a assez de...
Oui, maintenant de plus en plus de membres du parti démocrate à la Chambre disent oui, il faut y aller. Donc ils estiment qu'ils ont maintenant trouvé l'arme du crime et ils sont bien décidés à oublier, laisser un peu de côté les autres enquêtes sur les sujets que je viens de mentionner, et se concentrer exclusivement sur ce qu'on peut appeler l'Ukraine Gate, si vous voulez, et ils entendent agir extrêmement rapidement, et ils voudraient, ça c'est une initiative, je ne sais pas comment exactement la qualifier, mais enfin, ils voudraient avoir fini à la mi-novembre, pour la fête de Thanksgiving. Ouais. Donc ça leur laisserait deux mois, en gros, pour réunir suffisamment d'éléments, de preuves, pour vraiment commencer la procédure.
La procédure.
La procédure, ouais, absolument.
Justement, Henri, c'est une procédure longue. Expliquez-nous un peu comment ça peut se passer.
Eh bien, d'abord, quand on veut mettre en accusation le président, il faut préparer son dossier. Donc c'est pour ça qu'à la Chambre des représentants, en ce moment, il y a une commission qui est chargée de faire ce travail, c'est-à-dire
réunir les éléments
de preuve, établir des chefs d'accusation de façon à présenter à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, un dossier bien ficelé avec des preuves et des témoignages et tout ce que prépare d'habitude un procureur quand il va engager un procès. Et alors, ce sera soumis à la Chambre des représentants qui devra avoir un vote en session plénière de façon à déterminer s'il y a une majorité de députés, de représentants qui sont en faveur de la mise en accusation du président. Donc ça, ce sera l'impeachment qui est essentiellement une mise en accusation. Avant le procès.
Le procès se passe au Sénat, c'est ça?
Au Sénat, c'est-à-dire c'est l'autre chambre, la chambre haute, qui est chargée de juger le président, puisque bon, le président est un personnage spécial, il ne peut pas passer devant la justice normale comme tout le monde, et seul le Sénat réuni en session plénière, dans le cadre d'une procédure d'impeachment, peut le juger et éventuellement le destituer si les sénateurs favorables à son départ arrivent à réunir une majorité des deux tiers. Alors qu'il suffit simplement d'une majorité simple à la Chambre pour mettre en accusation.
Donc ce n'est pas gagné d'avance pour les démocrates, n'est-ce pas Claude? Pourquoi, disons, un an de la présidentielle lancer cette procédure quand on sait que le Sénat est toujours à majorité républicaine?
Ben oui, évidemment, c'est vrai que le président pourrait être effectivement mis en accusation par la Chambre, mais c'est un peu une manœuvre symbolique plutôt que réaliste, puisque du moins à ce stade, les républicains ayant la majorité au Sénat n'accuseront jamais le président. Donc, autrement dit, le président sera acquitté par les républicains. Hein. Je dis jusqu'à présent, parce que on voit déjà les républicains qui jusqu'à présent ont toujours soutenu le président, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, on commence à voir certaines fissures dans la muraille républicaine et certains républicains comme le sénateur Mitt Romney, l'ancien candidat à la vice-présidence, et d'autres commencent à se dire très préoccupés par les agissements du président, notamment sur cette affaire avec cette conversation tellement controversée. Donc, on peut toujours imaginer qu'il y ait suffisamment de républicains qui disent « Oh, c'est assez maintenant, le président est allé trop loin » et rejoignent les démocrates pour obtenir cette majorité des deux tiers. Et je crois qu'il faudrait un nombre relativement peu important de républicains qui changent de camp pour que effectivement le président soit destitué.
D'accord. Je crois qu'on a quelques auditeurs qu'on peut prendre. Ben Benoît depuis Kinshasa, n'est-ce pas? Ben Benoît. Vous êtes là, Ben?
Oui, je vous écoute.
Et vous dites que c'est ça la vraie démocratie?
Oui, bien, c'est ça la vraie démocratie, parce que dans un pays où règne un état de droit, la première des choses, c'est la liberté de l'expression. Les démocrates, comme étant américains, ils sont supérieurs au peuple. Ils doivent exprimer leur point de vue et leur aussi sentiment. Ils ont vite compris que non, s'ils partaient dans ces sens-là, ça va marcher. Mais ce que nous avons aussi leur demandé, de savoir avant de condamner, soit de faire pression sur le président Donald Trump, ils doivent d'abord savoir leurs décisions qu'ils sont en train de prendre et savoir promettre quoi vis-à-vis du peuple américain. Est-ce qu'il y aura vraiment l'intérêt du peuple américain ou c'est juste pour se plaire seulement parce qu'ils sont démocrates?
Ça, c'est D'accord. On aura nos invités répondre à cette question. Merci, Ben, malheureusement. Nous avons également Félix Conan depuis Abidjan, n'est-ce pas? Félix.
Vous
n'êtes pas très optimiste pour les démocrates. Vous dites que la procédure ne va pas aboutir. Pourquoi?
Oui, tout à fait. Okay. Parce que pour moi, depuis que Trump a accédé à la magistrature suprême des États-Unis, mes amis démocrates ne font que chercher la petite poule dans les cheveux de M. Trump. Alors que le bien économique, lui, il est plutôt favorable. Donc aujourd'hui, chercher à le destituer avec cette affaire de l'Ukraine, je crois qu'elle ne croit pas à beaucoup. Pour la même raison que c'est vrai que la démocrate domine la chambre du Parlement américain, mais étant donné que les sénateurs américains sont en majorité républicains, je ne suis pas sûr qu'ils puissent lancer le président à la venue populaire de leur vote démocrate.
Merci beaucoup, Colin Félix. On va prendre également rapidement Alphonse Mbouaké avant de revenir à nos invités pour des réactions. Alphonse Mbouaké depuis Kinshasa. Bonsoir.
Bonsoir, Abdi. Avant de lire l'opinion, j'ai pas lu l'ancien chef du service français de la
République. Pour cela. Ouais, vous êtes un fidèle auditeur, en tout cas.
Pour en venir au sujet, donc, je me dis que les démocrates ne vont pas aller plus loin, comme l'un de mes télévisions de la société. Moi, je trouve que. Comme je viens d'expliquer à Henri Francisque, je viens de donner les étapes de la procédure enclenchée, de la procédure de définition qui a été enclenchée. Donc je trouve que, il a dit qu'en dernier ressort, c'est le Sénat qui va juger Donald Trump. Comme il est majoritaire, comme les républicains majoritaires sont majoritaires, au final, moi, je pense que ce jugement ne sera conduit partiellement, d'autant plus que.
Je pense qu'on a compris, en tout cas, merci beaucoup. Vous dites que il nie toujours les accusations portées contre lui. C'est un récidiviste, vous dites, mais vous n'êtes pas très optimiste que cela va aboutir. Alors, Henri, qu'est-ce que vous retenez de ce que nos trois auditeurs ont dit?
Ben, je crois que les trois auditeurs ont bien compris que ce ne sera pas une mission facile, parce que actuellement au Sénat, il y a 53 sénateurs républicains, 47 démocrates. Les experts politiques aux États-Unis ont calculé qu'il faudrait que les démocrates débauchent au moins 20 sénateurs républicains pour arriver au chiffre magique des 2/3 de voix en faveur de la destitution. Ce ne sera pas une tâche facile parce que pour le moment, il y a quelques fissures, comme a dit Claude Porcella. Certains sénateurs veulent que l'on fasse une enquête approfondie sur les activités du président. Ils veulent donner à ceux qui ont des accusations à formuler l'espace politique nécessaire pour le faire. Mais 20 sénateurs, c'est près de la moitié du contingent républicain au Sénat. Ce serait une déroute, un effondrement de la cohésion côté républicain pour parvenir à ce chiffre.
D'accord. Alors, Claude, vous retenez quoi de ce que les auditeurs ont dit, notamment à cet auditeur Ben Benoît qui parle du peuple? Est-ce que vous pensez que c'est vrai que jusque-là, l'opinion publique n'est pas encore très emballée, hein?
Ouais, jusqu'à présent, jusqu'à ce que l'on ait connu tous ces détails sur cette fameuse conversation du 26 juillet, mais on a vu le nombre d'Américains qui sont maintenant en faveur de la procédure de destitution grimper en l'espace de quelques jours seulement de 12%. Donc vous voyez, l'opinion est en train de tourner, de changer. Cela sert les démocrates, bien sûr, mais cela peut aussi encourager certains républicains, parce que parmi ceux qui disent maintenant il faut commencer à enquêter sérieusement sur cette affaire, il y a aussi des électeurs républicains. On voit le climat en train de changer et franchement, pour le président Trump, ça prend une assez mauvaise tournure. Maintenant, on le connaît, c'est un combattant, donc il va faire feu de tout bois. Il a déjà demandé la résignation du président de la commission du renseignement qui s'occupe de cette affaire, Adam Schiff, parce qu'il l'accuse d'avoir interprété à sa façon la fameuse transcription de sa conversation avec Zelensky. Donc il va donner l'artillerie lourde. Donc,
quelles sont les conséquences politiques, en fait?
Extrêmement tendues, agitées, hein, ça c'est certain.
Et politiquement, en fait, les deux partis risquent de laisser des plumes, aussi bien Trump que les démocrates, non?
Oui, c'est risqué de part et d'autre, hein, parce que, disons que finalement... Revenons sur l'enquête sur le rapport du procureur Mueller. You know. Il n'a jamais dans son rapport pu dire carrément
que le président
était
impliqué.
Trump a abusé de son pouvoir. Mmh. Hein. Il a toujours laissé planer cette incertitude. Donc c'est difficile. Est-ce que les démocrates réussiront à réunir toutes les preuves ou il sera impossible de dire bon, on ne peut pas dire qu'il soit innocent dans cette affaire. Donc il y a des risques. Mais d'autre part, les républicains, si effectivement...
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Qui court le plus gros risque entre républicains et démocrates
C'est-à-dire qu'on approche des présidentielles de 2020. La campagne commence au début de l'année prochaine et c'est pour ça d'ailleurs que la présidente de la Chambre veut que tout soit ficelé d'ici Thanksgiving, c'est-à-dire la fin novembre, de façon à avoir un vote à la Chambre, placer le président en état d'accusation, donc approuver les articles, les chefs d'accusation inclus dans la procédure d'impeachment.
Est-ce qu'ils peuvent faire tout ça en un an? Parce que bientôt, ce sera une campagne intense pour la présidentielle. Ça va faire beaucoup pour l'opinion, non?
Oui, mais si les plans de la présidente de la Chambre arrivent à être accomplis, eh bien, ça va donner au moins 8 à 9 mois de campagne électorale pendant que l'on juge le président. Évidemment, bon, il faut d'abord que le Sénat soit d'accord et jusqu'à présent... On n'a pas d'opinion à ce sujet de la part du leader de la majorité au Sénat, le sénateur du Kentucky McConnell. Mmh. Et c'est lui qui doit mettre le dossier en jeu au Sénat pour que la procédure d'impeachment continue, pour qu'il y ait constitution d'une équipe qui va juger le président et que le procès soit entamé. Donc, ça implique qu'il y ait une coopération de la part du leadership républicain au Sénat et c'est pas acquis.
D'accord. Claude, vous êtes toujours avec nous.
Alors... Je m'excuse, j'ai été interrompu.
Non, je comprends parfaitement.
Mais pour enchaîner avec ce que vient de dire Francis, la raison pour laquelle Pelosi était réticente à lancer toute cette affaire, c'est que effectivement, toute l'actualité, tous les médias maintenant vont se concentrer pendant des semaines, des mois, et peut-être même jusqu'à l'élection, sur un éventuel procès, n'est-ce pas? Donc cela va faire passer au second plan tout le programme électoral des démocrates. Ils ne vont pas pouvoir vendre, si je puis dire, leur programme, toutes leurs idées, tout ce qu'ils veulent faire sur le plan social, etc.
Et justement, Joe Biden, qui est en ce moment le favori et qui est pratiquement au centre de tout cela, si on peut le dire, quel peut être, est-ce qu'il en bénéficiera ou bien c'est un peu risqué pour lui?
C'est difficile à dire. À mon avis, vous savez, ça va quand même laisser des traces. Vous connaissez le dicton calomnié, il en restera toujours quelque chose. Eh bien, il y a des gens qui, même sur la gauche, n'est-ce pas, critiquent Biden. Parce qu'ils disent, qu'est-ce que votre fils allait faire siéger à un conseil d'administration d'un groupe gazier ukrainien Bien qu'il faut le dire, il y a eu effectivement une enquête sur ce groupe et qu'il a personne n'a pu dire que Hunter Biden avait commis quoi que ce soit de répréhensible. Même chose, il y a eu une enquête aussi pourquoi Joe Biden était intervenu pour demander le renvoi du procureur qui était accusé de corruption. Bon, il y a tout ça. Donc ça va laisser quelque chose. Est-ce que ça va l'aider? Je pense pas que ça puisse l'aider. Est-ce que ça va aider ses rivaux? Jusqu'à présent, ils sont restés relativement discrets. Mais au fur et à mesure que la campagne va se développer, est-ce que certains ne seront pas tentés? Et on en aura la preuve peut-être du prochain débat dans une ou deux semaines.
D'accord.
On verra s'ils ne vont pas l'attaquer sur ce sujet.
D'accord, il nous reste à peine 4 minutes. J'aimerais qu'on aborde ce phénomène de lanceur d'alerte, qui est quelque chose de très important ici. Henri, d'abord vous, qu'est-ce que tout cela vous inspire?
Mais c'est-à-dire, cela montre qu'on a une démocratie, je pourrais dire, directe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les discussions, les consultations au niveau des élus, les débats, mais on a laissé une place au public, c'est-à-dire un lanceur d'alerte, ce qu'on appelle ici des whistleblowers, qui peuvent s'adresser directement au Parlement, au Congrès, que ce soit à la Chambre ou au Sénat, pour faire des suggestions et mettre la lumière sur des activités suspects qui ont lieu et qui devraient être connus des parlementaires directement.
Et vous, Claude,
c'est au crédit des États-Unis d'avoir un tel système. Ce lanceur ou cette lanceuse d'alerte, on ne sait pas, son identité reste inconnue, mais en tout cas, Donald Trump a émis des doutes sur son honnêteté, sur son patriotisme. Il a dit que ça pourrait être un espion, une espionne. Et il a ajouté, vous savez, dans le temps, on savait comment traiter les espions et les traîtres, n'est-ce pas? Donc, une sorte de menace à l'égard de cette personne qui, en fait, est le directeur par intérim des services de renseignement l'a dit hier, n'a fait que ce qu'il estimait être son devoir, et il a
protégé par la loi
selon les règlements, selon le protocole, et donc d'une certaine façon, aux yeux de certains, c'est un patriote ou une patriote, aux yeux évidemment de Donald Trump, c'est quelqu'un qui a agi presque illégalement et qui a fait preuve d'un manque
de patriotisme. Sur le plan purement journalistique, je veux avoir votre avis. L'auteur, le New York Times, est un peu sur le feu des critiques pour avoir donné des indices sur l'identité de la personne. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, absolument. Et il y a des gens qui ont dit moi, j'arrête mon abonnement au New York Times parce que vous avez mis en danger, bien que, pour autant que je sache, le New York Times n'a pas mentionné de nom, mais il a tout de même dit que c'était un agent de la CIA, donc il a mis d'une certaine façon en danger la vie de cette personne, et de la part de certains lecteurs, il y a eu une réaction évidente, et ils vont cesser d'acheter le New York Times.
Et vous, Henri, qu'est-ce que cela vous inspire?
Ben, cela veut dire qu'il y a des journalistes qui sont prêts à tout, à la recherche du scoop, et d'un grand titre, et peut-être d'un prix Pulitzer de journalisme. Ce qu'a fait le New York Times n'est pas très sérieux.
Le journal explique que c'était pour prouver que, en fait, la personne n'était pas juste quelqu'un qui passait, que c'était quelqu'un de très important, contrairement à ce que la Maison-Blanche essaie de véhiculer. Et c'est un peu leur explication. Vous acceptez cette explication, Claude?
Oh oui, tout à fait. Enfin, personnellement, je ne pense pas que le New York Times, c'est tout de même un journal ayant le sens de ses responsabilités. Il l'a prouvé dans le passé. Je pense que leur intention était bonne. Et ils voulaient montrer que, si vous voulez, ajouter du poids à la plainte de ce lanceur d'alerte ou de cette lanceuse d'alerte.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup à mes deux invités, Claude Porcella, ancien chef du service francophone de la Voix de l'Amérique, et également mon collègue, toujours ici à la Voix de l'Amérique, Henri Francisque. Avant de se quitter, je peux peut-être lire un dernier commentaire d'un auditeur qui dit il s'agit de Aaron Abalde depuis Dakar. Cette procédure n'aura aucun effet sur le président Trump, car ce n'est pas la première fois qu'on s'en souvient avec la supposée implication donc des Russes. Et ça risque de coûter cher aux démocrates, c'est son avis. En tout cas, merci beaucoup. Dans quelques instants, une autre édition du Monde aujourd'hui. Au revoir.
À l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.